Nous continuons sur notre réflexion sur le bonheur. Et ce matin, nous avons vu la joie et même le rire. Et cet après-midi, nous continuons avec la satisfaction et avec la théologie de la cocotte. Mais une théologie qui n'est pas minute, hein, qui n'est pas ponctuelle, hein, la cocotte minute. Ouais.
Juste pour la photo, ça t'enverrait juste un peu te déplacer.
Oh, mais non, non, c'est demandé tellement gentiment.
C'est pas à côté de la cocotte, c'est pas
comme ça.
Elle est en dessous.
Comme ça.
Non, naturellement, comme si tu veux.
Voilà, elle est difficile d'être naturelle. Hein.
Tu bouges pas le bâton dans la même place.
Voilà, super.
Fouet. Ouais.
Voilà. Attends, reprends-en une. Bande de nouilles. Ah.
Ça, c'est
ça, il faudrait l'enregistrer en vidéo, ça. Alors, trouver la satisfaction, un commentaire de l'épître aux Colossiens. J'ai mis en sous-titre, j'ai un an, j'apprends à marcher. Parce que je pense que c'est une expression qu'il faudra retenir à votre manière, celle-là ou une autre, mais retenir cette réalité. Nous sommes des enfants de Dieu, et donc nous avons à apprendre à marcher un peu comme le petit enfant apprend à marcher. Et la perfection du petit enfant, c'est d'apprendre à marcher. Et quand le petit enfant tombe, il n'est pas déçu de lui-même. Il tombe. Il apprend à marcher. Et nous, nous avons dans la vie à apprendre à marcher. C'est vrai que dans les grandes lignes, nous sommes appelés à être spirituellement adultes, à être complets. Il est souvent question de l'homme complet. Mais nous restons des enfants de Dieu qui ne connaissons qu'en partie et nous avons à apprendre à marcher. De sorte que la perfection étant de faire ce que Dieu nous demande, nous avons à apprendre à marcher. Et peut-être avec ce verset 16 de Proverbe 24 qui dit « Le juste tombe sept fois et se relève ». Autrement dit, je crois que c'est le privilège du chrétien de se relever. À la fin du psaume 20, je crois que c'est le verset 7, David va dire « Eux, ils font gloire de leur char, mais nous, nous faisons gloire du nom de l'Éternel. Eux, ils tombent, mais nous, nous relevons ». Et nous restons debout. Et je voudrais donc vous proposer ce fil conducteur dans l'Épître aux Colossiens, qui est que notre perfection, c'est d'apprendre à marcher. On revoit donc quelque chose qu'on a maintenant déjà un peu vu. Savoir qu'accompagner quelqu'un, c'est lui permettre d'exprimer sa souffrance. Hein, je vois que tout le monde n'écoute pas forcément. Il y en a au moins quatre qui lisent leur Bible. Mais c'est bien. Hein. Et donc, accompagner, c'est commencer par permettre à quelqu'un d'exprimer sa souffrance en identifiant les palliatifs. C'est de définir les buts qui correspondent et de l'aider à l'aide des buts, à l'aide des pensées associées, à l'aide de la responsabilité qui est précisée. De l'aider, de trouver un ancrage, autrement dit, de définir quelle est la volonté de Dieu. On a là nos trois clés, et dans l'ancrage, eh bien, de s'occuper particulièrement des domaines de fragilité que le souffrant va montrer dans ses souffrances. Alors, pour aborder cette épître aux Colossiens, nous allons nous poser les questions suivantes. Est-ce qu'on peut être parfait ? La réponse, c'est oui, puisque Colossiens 4:12 nous appelle à demeurer parfait et bien assuré dans toute la volonté de Dieu. Donc, Colossiens 1:28 nous dit que le ministère de Paul est de présenter tout homme parfait en Christ. Colossiens 3, verset 14, nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Autrement dit, on peut être parfait, mais tout dépend de ce que veut dire parfait. Vous savez que dans l'œuvre de Christ, il est question du sang, de l'eau et de l'huile. 1 Jean 5 nous dit que Jésus est venu par le sang et par l'eau et par l'esprit. Et il y en a trois qui rendent témoignage, le sang, l'eau et l'huile. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que le sang justifie, l'eau purifie et l'huile sanctifie. Le sang justifie, on comprend, hein, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, mais pour la justice. L'eau purifie, c'est-à-dire que l'eau de la parole de Dieu nous rend pur et rend nos pensées conformes à celles de Dieu. Et l'huile nous consacre. Hein, l'huile, dans l'Ancien Testament, consacrait le sacrificateur, le prophète et le roi. Et 1 Corinthiens 6, 11 nous dit que nous avons été sanctifiés, c'est l'huile, purifiés, c'est l'eau, et justifiés, c'est le sang. Autrement dit, ce sont les trois aspects fondamentaux de l'œuvre de Dieu et qui nous font rentrer dans une marche parce que nous sommes justifiés, alors nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, parce que nous sommes purifiés, nous pouvons avoir le discernement de ce qui est vrai, et parce que nous sommes sanctifiés, nous sommes appelés par Dieu à faire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que la perfection? C'est le fait d'être dans cette réalité-là et de faire ce que Dieu nous demande, en fait. Autrement dit, quand nous tombons, qu'est-ce que Dieu nous demande? Eh bien, de se relever. Et quand nous tombons, quand nous péchons, nous devenons impurs, mais ce qu'il faut, c'est se purifier par le lavage de la parole de Dieu, par le lavage d'eau de la parole de Dieu. En Colossiens 21, il est encore question de ces trois termes, de ces trois réalités, mais avec trois termes différents. Il est dit, et on va le voir dans l'Épître aux Colossiens, mais je le dis par rapport à la perfection en préambule, il est dit que nous avons donc été réconciliés avec Dieu par le corps de sa chair pour qu'il nous présente saint, c'est la sanctification, c'est l'huile. Alors la Darby dit irréprochable et irrépréhensible. Irréprochable, en grec, amamos, c'est sans tache. Donc c'est l'eau qui nous rend sans tache. Et sans interpellation, anakletos en grec, c'est irrépréhensible. Sans interpellation, sans tache, sans interpellation. Sans interpellation, c'est la justice, c'est le sang. Nous avons été réconciliés par le corps de sa chair pour que nous soyons saints, nous lui appartenons, nous sommes consacrés, c'est l'huile. Sans tache, c'est l'eau. Et sans interpellation, c'est le sang. Et voilà ce que l'œuvre de Jésus-Christ a produit pour que nous le soyons, en fait. Nous sommes saints, sans tâche et sans interpellation. Et le ministère de Paul, Colossiens 28, est de présenter tout homme parfait ou complet. Telos veut dire complet. Et dès qu'on fait la différence entre parfait et pur, alors là, tout le monde est d'accord. Qui peut dire à la fin d'une journée qu'il est pur? Non, personne. Il faut se laver dans l'eau de la parole de Dieu parce que nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais notre perfection, c'est de nous purifier. Notre perfection, c'est de marcher dans la sainteté, c'est-à-dire dans l'appel que Dieu a eu à notre égard. Marcher vers ce vers quoi il nous appelle. Voilà. Donc, si on pose ces jalons, je pense qu'on peut être conscient qu'on est parfait. On peut être conscient que c'est même pas, on n'a pas à en être fier. C'est quelque chose de normal de faire ce que Dieu nous demande. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, comme l'Épître aux Colossiens nous le montre, elle est un peu encadrée par Colossiens 1,9 qui dit « Nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. » Et puis Colossiens 4,12 « Épaphras combat pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfait et bien assuré dans la connaissance de la volonté de Dieu. » Autrement dit, Pour Paul aux Colossiens, il semble que le discernement de la volonté de Dieu, c'est quelque chose de simple. En tout cas, il ne l'explique pas. Peut-être qu'il leur a expliqué, peut-être que... et donc il fait une piqûre de rappel, c'est possible. Mais voilà deux passages qui encadrent cette lettre et qui montrent qu'en discernant la volonté de Dieu, alors on fait ce que Dieu nous demande et on est dans ce chemin de complétude. Pour donner une indication, peut-être, il est dit à propos du Seigneur Jésus dans Hébreux 2, qu'il fallait que le chef de notre salut soit rendu complet, consommé, hein, par des souffrances. Autrement dit, sa vie a été complète parce que lui, comme les autres hommes humains, a souffert. La vie a été rendue complète. Autrement dit, être parfait, c'est rentrer dans cette complétude à laquelle Dieu nous appelle. Autrement dit, ce n'est pas un titre de gloire, c'est quelque chose de normal. Nous avons à rentrer dans le chemin que nous sommes appelés à faire. Et vous remarquez comme lundi soir, nous avons parlé à plusieurs reprises avec un Timothée d'une conscience pure. La pureté, c'est une exigence. Je pense que la pureté est beaucoup plus exigeante que la perfection. Parce que la perfection, ben, quand je tombe, je me relève. Mais la pureté, c'est si je veux rester dans la pureté. Alors ça demande... ça demande d'être sensible à l'Esprit de Dieu et d'être conséquent dans ma vie personnelle. Alors je suis parfait, pourquoi ? Pour qui ? Eh bien, je suis parfait dans la mesure où je rentre dans les choses que Dieu me demande de faire. Et pour qui ? Ben, je suis parfait pour Dieu, pour moi, puis peu importe. Hein ? L'important, c'est de rentrer dans cette complétude. La perfection est-elle différente pour chacun ? Non. Dans l'absolu, chacun a à être complet, mais dans la pratique, chacun a à faire ce que Dieu lui demande, et pas ce que Dieu demande à l'autre, bien sûr. Comment vivre l'orgueil ? Alors, on a vu l'orgueil de manière tout à fait, dans le principe, dans le rôle des émotions. L'orgueil fait partie des émotions, ou du sentiment que nous pouvons éprouver, des émotions que nous communiquons. Dans la mesure où nous avons de la fierté à être ce que nous sommes, dans la mesure où nous accordons beaucoup d'importance à avoir fait quelque chose de normal. Voilà qui est s'enorgueillir. Comment vivre l'orgueil ? Eh bien, il faut entendre dans ma vie émotionnelle, dans mon état d'âme, que je le suis, et du coup, comprendre par l'émotion, par ce qu'elle me transmet, que quelque chose n'est pas juste, quelque chose n'est pas selon Dieu, et à moi de rétablir le prix que j'accorde à ma propre personne. Est-ce qu'on peut perdre la perfection ? Bien, on a à demeurer parfait, alors oui, on peut la perdre, mais quand on la perd, notre perfection, c'est de la retrouver. Vous voyez comme les choses sont simples dans un sens. À nous de faire, à tout moment, ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'on peut lutter contre des pensées ? Alors on a vu déjà, dans un sens ça, dans le rôle des pensées. Non, il ne faut pas lutter contre les pensées. Il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lutter contre une pensée, c'est rentrer dans un mécanisme obsessionnel. Si je dis « il ne faut pas que je pense à ça », je vais y penser forcément. Alors que si au contraire, en pensant à ça, je lui accorde la réalité ou le prix ou la valeur que Dieu lui accorde, à ce compte-là, je regarde la chose et elle ne me gêne pas. Et de ce fait, la pensée... Et vu comme l'Esprit de Dieu la voit. Et c'est là où je peux vivre pleinement ma vie spirituelle dans le mécanisme de ma conscience. Comment vivre les effets des pensées charnelles ? Eh bien, malheureusement, les effets des pensées charnelles sont douloureux, ils ne sont pas bons. Hein, la pensée de la chair, nous dit Romains 8, c'est la mort. Elle est morte, elle est mortelle. La pensée de la chair, nous dit Galates 6, c'est la corruption. Donc les effets, ils ne sont pas agréables. Mais dans un sens, de la même manière qu'il faut des engrais, du fumier, pour que les tomates poussent bien, on peut dire que dans nos pensées, les pensées charnelles nous permettent aussi de mieux discerner ce qui est spirituel, ce qui est spirituellement vrai. À nous donc de ne pas nous effrayer pour posséder le pays, comme disait l'Éternel Abraham, il faut bien s'y promener. Et de ce fait, quelquefois, on est à des endroits où on ne devrait pas se trouver. Mais ça nous permet aussi de savoir là où il ne faut pas se trouver. Et c'est ça, apprendre à marcher. Dans notre ciel intérieur, alors on a ces 12 états d'âme que on va non pas chercher à combattre, chercher à étouffer. Les émotions, ça ne se gère pas. Les émotions, ça se vit. Les émotions douloureuses, ça ne se gère pas, ça se vit. La maturité de l'accompagnant, c'est de savoir vivre ces émotions douloureuses. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oula, mais tu m'as l'air en colère. Ah, mais c'est justement, c'est bien d'être en colère. Hein? Mais ça ne te rend pas triste? Si, si, ça me rend triste. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans mon quartier. Et je suis en colère parce que mon voisin, le fils de mon voisin, a donné un coup de pied au neveu de l'autre voisin. Il s'est cassé le pied et lui, il lui a cassé la pommette. Et ils sont tous les deux allés au commissariat. Alors je suis en colère et je suis triste. Mais ça va très bien. Parce que c'est une circonstance affligeante de quartier dans laquelle des gens dans le voisinage ne sont pas fichus de se respecter. Donc, et c'est tout à fait normal que je sois en colère. Tout à fait normal. Maintenant, comment est-ce que ma colère peut trouver son lieu? Alors, ça c'est important. Et ma colère trouve son lieu comment? Eh bien dans la mesure où je peux en parler à mes voisins, s'ils veulent bien en parler. Et dire que vraiment, c'est dommage qu'on en arrive là et qu'on se laisse aller à tel débordement. Voilà. Et puis, aussi, comment ma tristesse peut s'estomper? Eh bien, sachant que ce qu'ils ont mal fait, l'Esprit de Dieu les amène aussi, certainement, avec ça, à faire l'expérience de quelque chose qui est douloureux, qui est stupide, et expérience de laquelle ils peuvent tirer un profit particulier. Donc, voilà comment mon bonheur se construit dans mon ciel intérieur. Voilà comment, moi, en tant qu'accompagnant, je vais pouvoir partir d'un des éléments du bonheur, douloureux, et permettre aux souffrants d'accéder à ce que cet état d'âme désagréable s'estompe, mais aussi de lui permettre de trouver son bonheur. Trouver son bonheur en comprenant que nous avons des relations justes à avoir, une liberté à entreprendre, une estimation des circonstances juste à avoir. Savoir trouver la sérénité en obéissant dans la souffrance et puis l'amour en étant finalement avec notre prochain quand on le rencontre. Alors la perfection, eh bien la perfection c'est un mot qui se trouve assez souvent dans l'épître aux Hébreux, mais dans ce tableau je n'ai pas tenu compte des mentions de la perfection qui ne concernait pas l'humain. Ce qui fait que c'est quand même dans Colossiens qu'on va étudier ce sujet. Et au passage, le mot satisfaction ne se trouve qu'une fois dans Colossiens, en Colossiens 2:23, mais avec cette mention péjorative pour la satisfaction de la chair. Comme si, et là je vais en profiter pour parler du plaisir, de la satisfaction et de la sérénité. La satisfaction, comme si, finalement, Dieu ne nous proposait pas de rechercher à être satisfait, mais plutôt de rechercher à faire ce qu'il nous demande. L'état d'âme correspondant étant d'être satisfait. Mais le but n'est pas justement de s'enorgueillir. Le but, c'est de faire. Faire ce que Dieu nous demande, d'entrer comme collaborateur dans cette œuvre. Pour le plaisir, c'est un peu pareil. Quand il est question de plaisir, dans Jacques par exemple, Jacques condamne l'hédonisme, la recherche du plaisir, comme finalement motivation suprême. Non, notre motivation suprême c'est d'être libre, de ne jamais subir quoi que ce soit, mais d'être acteur dans notre vie. C'est donc le sens de l'épître aux Galates, et qui va, on l'a vu, nous proposer d'être libre en étant, Galates 5:18, conduit par l'Esprit de Dieu. Pour la sérénité, c'est un peu pareil. Mon but, ce n'est pas d'être serein. Mon but, c'est de considérer, comme dit la première épître de Pierre, que dans l'ensemble des circonstances dans lesquelles je vis, et qui sont souffrantes, qui sont difficiles, qui sont contraires, alors Dieu est souverain et moi je suis appelé à lui obéir. On est donc appelé à ne pas accorder peut-être trop d'importance au plaisir, à la satisfaction, à la sérénité. Alors qu'il est beaucoup question de paix, de joie et d'amour. Autrement dit, dans notre pratique pastorale, et ça, je ne crois pas vouloir l'avoir déjà dit, peut-être que nous avons intérêt à mettre en premier la paix et l'amour, c'est-à-dire ces états d'âme qui concernent des personnes. Apprendre à être vis-à-vis des personnes, apprendre aux souffrants à être vis-à-vis de la personne très soigneux, très délicat. C'est là où se trouve l'essentiel de notre mission et de ce qui est générateur de bonheur. Et puis la joie, c'est quand même globalement un indicateur, la joie et se réjouir, du regard qu'on a sur l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui resterait dans la tristesse, c'est quelqu'un qui aurait tendance à oublier que ce que Dieu fait, il le fait de manière souveraine, de manière juste, et qu'il construit quelque chose qui a beaucoup de prix et qui nous permet de nous réjouir. On rentre donc dans cette étude de Colossiens, et voilà donc ce verset de Colossiens 1:9, où Paul, avec ceux avec qui il écrit, je crois Silas et peut-être quelqu'un d'autre, il dit « Nous ne cessons pas de prier, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, etc. » Et alors, voilà un domaine qui pourrait être le domaine de nos pensées, hein, que j'ai un peu matérialisé ici sur la diapo, comme un terrain. Et j'ai mis ce verset de Galates 6, versets 7 et 8, « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, cela aussi il le récoltera. » Autrement dit, sur ce terrain, si je sème, je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me bloque par rapport à la prière de Paul. Nous ne cessons pas de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et je pense que cette réalité-là, je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui occupe les pensées, je ne sais pas, de 99% des gens, si ce n'est pas 100. Hein, avant qu'on ait vraiment qu'on soit scotché devant ça et qu'on soit tenu de dire « Seigneur, oui, j'accepte cette réalité que je peux connaître ta volonté. » Si, tant que je ne suis pas dans cette situation, je risque fort de ne pas savoir ne serait-ce qu'accepter cette réalité-là. Si je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, alors je risque bien d'avoir peur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je risque bien d'être coupable parce que une fois que je vais faire quelque chose, je ne saurai pas trop si c'est bon ou si c'est pas bon. La première partie du chapitre 1er est sur la manifestation de ce que Dieu fait et de ce que, finalement, Dieu veut nous donner, la connaissance de sa volonté. La deuxième partie du chapitre, c'est sur ce que l'homme doit faire. Alors, on lit en Colossiens 1, versets 21-23, « Dieu vous a maintenant réconciliés. » Hein, on conclut avec tout ce que Dieu a fait. Et il dit, pour vous, maintenant, pour vous présenter, saint, irréprochable, irrépréhensible, et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec ces trois aspects, saint, c'est l'huile, irréprochable, c'est l'eau, irrépréhensible, c'est le sang. Nous sommes, finalement, sanctifiés, nous sommes lavés, nous sommes justifiés. Mais si du moins vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, et on a vu lundi soir la construction de la foi. Comment on peut se fortifier? Comment est-ce qu'on peut travailler à ce que cette foi reste véritablement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on peut déchoir de la sainteté. Est-ce que ça veut dire qu'on perd son salut? Mais non. Déchoir de la sainteté, je crois qu'Hébreu 13 nous dit, poursuivant, peut-être Hébreu 12, poursuivant la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hein? Autrement dit, la sainteté, c'est cette capacité que nous avons d'être en face à face avec Dieu. Donc, si je demeure dans la foi, je demeure dans ce face-à-face. Mais si je ne suis plus dans un face-à-face, alors je ne suis plus dans la sainteté. Ça ne veut pas dire que je n'appartiens plus à Dieu. Ça veut dire que je ne profite pas du privilège qui m'est donné d'être dans ce face-à-face. Si je ne me lave plus dans la parole de Dieu, je vais rester impur. Au contraire, si j'ai l'habitude de prendre ma douche matin et soir, et comme je prends ma douche, eh bien, je prends ma douche spirituelle. Je me lave. Je suis à l'écoute du Seigneur pour me dire, tiens, là, je modifie. Je suis d'accord avec toi. Si je suis toujours dans le profit de ce que le sang m'a donné, savoir la justice, alors il n'y a plus de condamnation. Et donc, la volonté de l'homme est importante. C'est à moi, dans le jardin de mes pensées, de finalement non seulement ne pas dire que je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, mais de ne pas dire que je ne peux pas être irréprochable, par exemple, ou que je ne peux pas être sanctifié, ou que je ne peux pas être sans interpellation, ou irrépréhensible. Si je dis « je ne peux pas être irréprochable », alors, finalement, si on peut me faire des reproches, vous vous souvenez des émotions du niveau de l'action, alors j'induis en moi de l'insatisfaction et de la frustration. Dans le chapitre 1er, qui est une grande introduction dans l'Épître aux Colossiens, me semble-t-il, il y a donc trois grandes parties. La première partie, c'est le travail de Dieu, hein, qu'on pourrait finir jusqu'au verset 20, qui nous dit que Dieu nous a réconciliés maintenant par le corps de sa chair. Mais après, il y a le travail de l'homme. On l'a vu. Où nous avons, nous, à demeurer dans la foi fondée et ferme. Mais ensuite, il y a le travail de Paul. Et ce travail de Paul, il le dit au chapitre 1, verset 28-29. Il dit que c'est de présenter tout homme parfait ou complet en Christ. Et il dit à quoi aussi je travaille. Je travaille à être complet et à demeurer dans cette complétude. Selon l'opération de Christ qui opère en moi avec puissance. Alors, on a vu le « je ne peux pas connaître la volonté de Dieu ». Si je me dis que personne n'est parfait, alors que c'est le ministère de Paul de présenter tout homme parfait, alors là, finalement, dans les circonstances dans lesquelles je vais vivre, eh bien, je vais dire « oui, je risque d'être triste ». Je risque d'être fébrile parce que finalement, je ne sais pas trop comment me situer. Et comme on l'a vu, avec cette idée de ne pas pouvoir être irréprochable, alors j'aurai vraiment un ensemble d'émotions douloureuses qui fera que mon ciel intérieur, mes états d'âme seront très douloureux. Au contraire, on pourrait dire que l'épître aux Colossiens s'articule sur cette affirmation du chapitre 2, verset 10, « Vous êtes accompli en lui ». Et accompli, ce n'est pas du verbe « téléo » qui veut dire « complet », mais c'est du verbe « pléroo » qui veut dire « remplir ». C'est pour ça que j'ai mis ici « rempli ». Vous êtes rempli en lui. Vous êtes rempli en lui ou par lui. Est-ce qu'on le croit, ça? Est-ce qu'on est adepte de la théologie de la cocotte? Ou bien au contraire, est-ce qu'on croit la parole de Dieu? Si on est adepte de la théologie de la cocotte, alors on va dire, mais Christ en moi, c'est pas tellement possible. Et cette affirmation mauvaise de dire, mais non, Christ n'est pas en moi, alors on va dire, mais finalement, je ne sais pas tellement où j'en suis. Hein, on pourra dire qu'en moi, il pourra y avoir des tensions, des dualités, des incertitudes. Alors que je peux dire finalement, j'ai un an, j'apprends à marcher. Le cœur de l'épître aux Colossiens, c'est 10 commandements. Et voilà, ce sont des choses qui se sont imposées à moi. Hein, je ne prétends pas que ce soit la seule lecture, mais c'est comme ça que j'ai fini par la lire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces 10 commandements? On trouve une symétrie. Vous remarquerez que le premier commandement, Colossiens 2, versets 6 et 7, qui dit « Marchez, hein, comme vous avez reçu le Christ Jésus, marchez en lui, étant édifié, etc. » Et le commandement 10, Colossiens 4, versets 5 et 6, « Marchez dans la sagesse envers celui du dehors. » C'est pareil, sauf que le commandement 1, c'est individuel, le commandement 10, c'est envers les autres. C'est pareil, c'est-à-dire c'est la même dynamique, c'est la même initiative. Le commandement 2, prenez garde hein, aux enseignements du monde, etc. Et donc, dans le commandement 2, Colossiens 2, versets 8 à 15, il y a, me semble-t-il, un credo qu'on ne va pas aborder parce que ce n'est pas le thème, ce n'est pas le but de notre étude, mais il y a un credo en 7 points qui me semble être le credo du christianisme, qui parle de différentes choses. Et donc, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Hein. Prenez garde de ne pas, finalement, accepter n'importe quoi en termes de réalité spirituelle. Et le commandement 9, c'est veillant dans la prière, priant pour nous, pour que Dieu nous ouvre des portes. Colossiens 4, versets 2 et 4. On retrouve encore le fait de prendre garde à l'égard de nous-mêmes, le fait de prendre garde à l'égard des autres. Hein, veillant dans la prière, je vous le dis, parce que ce n'est pas très lisible en bleu. Colossiens 4, versets 2 à 4. Dans le commandement 3, c'est « Que personne ne vous juge », Colossiens 2, versets 16-17. Alors c'est intéressant comme commandement, parce que, en fait, il ne dépend pas de nous. Hein, c'est comme quand Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà, ça veut dire, en fait, quand même, c'est intéressant parce que Paul aurait pu écrire à Timothée en disant « Je te demande de dire aux autres de ne pas mépriser ta jeunesse. » Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, autrement dit, il est en train de dire à Timothée, ou ici, Paul est en train de dire aux Colossiens, de ne pas d'être dans une disposition intérieure à ne pas se laisser faire. Que, voilà, de maturité. Que personne ne te juge, en fait. Donc, toi, tu es convaincu. Tu as des idées. Vas-y. Vas-y. Hein, que personne ne te juge. Et donc, ne pas se laisser juger, ne pas se laisser... C'est-à-dire, il faut savoir argumenter. À l'inverse, commandement 8... c'est vous enseignant l'un l'autre. Autrement dit, ne laisse pas des gens t'imposer un enseignement qui ne serait pas bon, que personne ne te juge. Commandement 3. Mais commandement 8, Colossiens 3, versets 16 à 4, verset 1, vous enseignant l'un l'autre. Et on ne l'étudiera pas, mais je crois qu'il y a 6 catégories de personnes dans ce commandement 8, l'un l'autre, avec les pères, les parents, les pères, les enfants, les esclaves, etc. Hein, intéressant de voir comment dans chaque catégorie il y a un enseignement particulier. Commandement 4, c'est que personne ne vous frustre du prix. Dans la Darby, entre crochets, il y a du prix du combat. C'est entre crochets. Moi, j'aime bien le traducteur qui met entre crochets. Parce qu'au moins, on a la liberté de ne pas en tenir compte, en fait. C'est que personne ne vous frustre du prix. Autrement dit, soyez bien que personne ne vous frustre du prix. J'en profite pour remarquer que la frustration est affaire de prix. Et quand on est frustré du prix de quoi ? De notre action. Les tableaux des émotions, la frustration, c'est la colonne du prix et le rang des actions. Et là, on retrouve tout à fait cette réalité. Que personne ne vous frustre du prix. Autrement dit, ce que vous êtes en train de faire, réalisez que ça a du prix. Et quand on vous dit que c'est nul, non, 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 ça je ne le crois pas. Je sais que ça a du prix. Commandement équivalent, c'est le 7. C'est « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » C'est l'amour qui a le plus de prix. Hein? Et donc, on se rend compte que, d'un point de vue individuel, nous avons à faire un ensemble de choses. Et ensuite, du commandement 1 au commandement 6, dans un sens, ou on va voir avec les commandements 5 et 6, et puis du commandement 7 à 10, alors c'est envers les autres. C'est exactement comme dans les 10 commandements. Hein, les 6 premiers sont pour soi et les 4 derniers sont à l'égard des autres. Hein, dans les 10 commandements d'Exode 20. Et donc, commandements 5 et 6, cherchez les choses qui sont en haut, ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? Si on applique le commandement 6 à la lettre, alors il vous faut fermer les yeux, hein, les gars. Parce que, comme il ne faut pas chercher les choses qui sont sur la terre, il ne faut pas regarder ce qui est projeté, là. Hein? Et il ne faut pas écouter le son de ma voix, parce que sinon la vibration risque de vous faire du mal. C'est ça, en fait, hein, littéralement. Donc, ça ne veut pas dire ça. Hein? Je crois que là, il y a une opposition entre le haut et le bas, d'un point de vue moral. Hein? Chercher les choses qui sont en haut, qui ont de la valeur. Et celles qui sont en bas, alors laissez-les. En fait, celles qui sont basses, hein, et il y a des exemples, de mémoire, il y en a peut-être 12, il y a deux groupes, hein, de choses qui sont basses, je crois qu'il y a un groupe de 5 et un groupe de 7, et donc c'est à nous d'y réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Le cœur de la lettre pourrait donc être constitué comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce cœur ? On n'oublie pas que Colossiens, c'est « Nous prions pour que vous soyez remplis de sa volonté, demeurez remplis de sa volonté et vous êtes remplis. » Colossiens 2, verset 10. Vous êtes remplis de Christ. Donc il y a une sorte de plénitude qui est normale en fait. Chan, est-ce que tu es rempli de Christ ? Oui, amen. C'est-à-dire qu'on devrait en fait considérer quelque chose comme ça, de normal, en fait. C'est pas une gloire d'être rempli de Christ. C'est normal. Et donc, qu'est-ce qui découle de cette plénitude ? Eh bien, au cœur des 10 commandements, c'est le fait de discerner. C'est le rôle glorieux de la conscience. On revient toujours aux mêmes choses. Mais qu'est-ce qui aboutit avec tout ça ? Eh bien, c'est de faire. Faire quoi ? Ben, faire ce que Dieu nous demande. Vous voyez comme on est toujours dans cette grande simplicité. Et avec le fait de faire ce que Dieu nous demande, mais quand même de faire attention, quand même de ne pas se laisser juger et d'être dans le bon prix des choses. Mais voyez que dans cette perspective-là, Colossiens, c'est pas si compliqué que ça. De ce point de vue-là, alors je crois qu'on peut vraiment être bien habillé. Hein? On peut être bien habillé. On peut se revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est quoi se revêtir de l'amour ? C'est faire bien. C'est faire les choses que Dieu me demande. Je me revêt, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extérieur en fait. Hein? Je fais ce que Dieu me demande, et de ce fait, parce qu'il y a l'amour au centre de mes pensées, alors je peux connaître la volonté de Dieu, je suis et même je demeure parfait, et je peux dire que Christ est en moi, ici. Hein, Christ est en moi, je suis sans reproche. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, qui fait que je puis finalement demeurer, moi, dans cette réalité, dans une réalité dans laquelle je vais éprouver des choses importantes, des choses pleines, des choses qui vont me faire du bien, mon ressenti étant à la hauteur de ma démarche, commandement 5 et 6, mais aussi de mon action, commandement 1 et 10. Si je regarde maintenant en Colossiens 2, dans l'Épître aux Colossiens, des éléments un peu conclusifs qu'on pourrait retenir. Eh bien, première chose, c'est que, oui, nous sommes appelés à marcher dans la perfection et à vivre dans cette plénitude qui nous remplit, Christ qui est en nous. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que dans les commandements qui nous sont donnés, alors ça commence par marcher. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit, Colossiens 2, verset 5 ou 6, « Comme vous avez reçu le Christ, marchez en lui. » Vous êtes des enfants de Dieu, allez-y marcher. Hein, marchez. Ah oui, mais moi, il faut d'abord que j'apprenne à marcher. Et non. Il faut marcher. C'est un peu le monde à l'envers, en fait. Hein? Il faut y aller. Hein? L'enfant, pour apprendre à marcher, il marche, en fait. On ne va pas lui dire, alors, enfant, tu sais, pour marcher, tu vas mettre un pas devant l'autre, tu vas être sur un seul pied, tu vas être en déséquilibre, etc. Il va dire, mais tu es un peu barjot, toi. Hein? Hein? Demande à ton père. Hein? Hein? Voilà. Et donc, dans la vie chrétienne, nous, on ne fait pas du tout comme ça. On est continuellement en train de refuser de marcher parce qu'on dit qu'on ne sait pas marcher. On est vraiment des nouilles. Hein? Et donc, il faut commencer par marcher, mais avec ces choses assez simples. Veiller, ne pas se laisser juger et estimer. Autrement dit, ma marche, hein, voilà, je fais attention à comment je marche et à où je marche. Hein, je veille. Je me demande, en fait, quand je marche, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux être bien, en fait? Hein, comment est-ce que je peux ne pas avoir mal au dos, être en équilibre, me faire du bien à l'ensemble de mes muscles? Voilà. Je veille, je ne me laisse pas juger, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais tu marches trop vite, trop lentement, tu fais des trop grandes enjambées, etc. Hein? Et donc, je veille et je ne me laisse pas frustrer du prix. Autrement dit, ce que je suis en train de faire, je l'apprécie, je l'estime. On remarque que je commence par marcher et au cœur de ma démarche, alors l'Esprit de Dieu est là. Comme si le travail de ma conscience, il faut que j'ouvre des portes pour que l'Esprit de Dieu me dise non. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut que j'aille dans l'action pour que j'entende oui ou j'entende non. Si j'attends d'entendre oui avant d'avoir avancé la jambe, alors j'entendrai pas, en fait.
C'est une réponse à connaître la volonté de Dieu.
Exactement. Nous avons, nous, à avancer dans ce sens. Et on remarque que c'est dans cette dynamique de marche qu'il y a la recherche des choses élevées. Quand je marche, alors je me dis, comment est-ce que je peux marcher de la manière la plus élevée qui soit? Si je ne me risque pas, alors je n'entends pas. Et donc je me risque, et commandement 1 à 6, je me risque. Mais il y a des difficultés par rapport aux autres. Commandement 7 à 10. Et je suis donc amené, commandement 5 et 6, à planter du bon, chercher les choses qui sont en haut, mais à désherber le mauvais. Franchement, quand on pêche, on perd son temps. Eh oui. On perd son temps. C'est du temps perdu, c'est dommage. C'est pas que ça ne nous enlève pas de la justice. Mais on perd son temps, on se fait mal. Pour finir, avec donc Colossiens, alors je le dis de mémoire, c'est, je crois que c'est à partir du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre 4. C'est intéressant de voir comment Paul parle de son équipe. Alors, le premier, il s'appelle Tychique. Vous savez ce que ça veut dire, Tychique ? Fortuit. Fortuit. On a l'impression que, dans son équipe, le premier dont il parle, c'est celui qu'il a rencontré au coin de la rue. Là, il lui dit, tu viens avec nous ? Fortuit. Hein ? Vous savez combien de personnes il y a dans cette équipe ? 12. Intéressant, hein ? Avec Paul. Et Paul, qui veut dire petit, il se place où ? À la fin. Intéressant. Et donc, j'ai l'impression que y a une sorte de... C'est pour ça que j'ai mis tous ces avions en rang. Hein, on a chacun notre avion. Et on fait chacun ce que Dieu nous demande, mais il faut quand même qu'on travaille ensemble. Autrement dit, la complétude, elle est à la fois la complétude individuelle et la complétude collective. Et dans l'équipe... Il y a le fortuit en premier, il y a l'utile en deuxième. Alors dites-moi les noms, là, parce que je ne m'en souviens pas bien. Utile, c'est quoi ?
Onésime.
Onésime, c'est ça, oui. Ensuite, Aristarque, le meilleur chef, c'est ça ? Ensuite, Marc, la défense. Barnabas, le consolateur.
Juste,
le sauveur. Ou Jésus, non ? Oui, c'est ça. Epaphras, c'est charmant. Luc, c'est lumineux. Gouverneur, c'est qui ? Démas, non ?
Démas.
Et Nymphas, qui veut dire marié. Philippe, qui veut dire expert en chevaux. Et Paul, qui veut dire petit. Autrement dit, je trouve que, franchement, dans une équipe, il faut négliger personne. Alors, bien sûr, il faut... c'est une lecture hein, de cette fin de chapitre. Mais je trouve qu'elle va bien dans le fil conducteur de nos affaires. Hein? Voilà. Avoir une équipe complète. Hein, ce matin, on parlait de l'équipe de rugby. Hein, voilà. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est beau, quelque chose qui est vraiment utile et dans lequel... on a matière à réflexion. Du point de vue individuel, qu'est-ce que je retiens de cette équipe ? C'est que je peux discerner la volonté de Dieu, je suis rempli de Christ, et donc je fais ce que Dieu me demande. Je répète, je peux discerner la volonté de Dieu, Colossiens 9, Colossiens 4, 12, je suis rempli de Christ, Colossiens 2, 10, et je fais ce que Dieu me demande avec finalement un programme qui n'est pas tellement compliqué. Mais qui me demande quand même une certaine exigence avec un peu un équilibre entre ce que je suis en train de faire et la réflexion sur la manière de le faire. Philippe. Ah, c'est peut-être Archip. Archip, oui. Oui. Hein ? Philippe, c'est celui qui aime les chevaux. Mais c'est Archip, l'expert en chevaux. Oui,
c'est
Archip. Oui. Voilà. Ça va ? Par exemple, oui, il s'occupe d'évangélisation. Alors, réaction, précision, élucubration.
Juste sur les noms, là, la dernière partie, dans ma question, verset 15, c'est Nympha.
C'est le marié, Nympha.
Et là, il marque, certains manuscrits ont un nom masculin, moi c'est un nom féminin.
Oui, très bien.
Le
Voilà. Ben, c'est...
C'est génial,
cette
liste, je trouve.
Ouais, hein.
Le fait que dans la pensée chrétienne, on ne soit pas dans cette logique de dire « je vais marcher, et là, je vais voir ce qui se passe », ça vient certainement d'une peur. Tu peux en dire un peu plus sur ces blocages qui font qu'on a cette mauvaise vision? Est-ce que c'est une mauvaise vision qui nous a été inculquée? Est-ce que c'est une mauvaise vision qui vient simplement de notre nature?
Mais c'est que on veut être plus royaliste que le roi. On fait comme Adam, en fait. Hein, Adam, quand il a péché, il a eu peur. Et Dieu nous appelle à réaliser quelque chose de grand tout en découvrant que nous sommes capables de le faire. Réaliser quelque chose de grand, c'est-à-dire que quand tu veux faire construire un pont, ben, il faut un ingénieur qui connaisse les principes de voûte, et etc. Hein? Ça rigole pas. Je crois qu'on oublie un peu de penser que sur le terrain, enfin, que quand l'ingénieur sort de son école, il connaît beaucoup de choses, mais il ne sait pas travailler. Et qu'il apprend à travailler en faisant les choses. Et dans notre... je pense que dans notre conception générale, on a renversé les choses. Et on s'est dit... On a fait des spécialistes de la réflexion, alors que c'est vraiment dans l'action qu'on comprend. On a vu cette réalité, par exemple, lundi soir encore, dans la deuxième épître de Pierre, quand il dit qu'en joignant à notre foi la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la douceur, l'affection fraternelle et l'amour, eh bien il dit, si ces choses sont en vous et y abondent, autrement dit, si vous pratiquez la vie chrétienne, cela fera que vous ne serez pas oisif ni stérile pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, on l'a vu également dans les épîtres comportementalistes. Si vous vous comportez, vous connaîtrez. C'est là où le comportementalisme rejoint le cognitivisme. C'est là où, en faisant, j'apprends à savoir. C'est assez simple ce que je dis, ça va ?
C'est quelle référence, s'il te plaît ?
2 Pierre 1, verset 8. C'est le verset 5 à 8. Autrement dit, je ne peux pas, moi, savoir ce que c'est que le pardon si je ne pardonne pas. Je ne peux pas savoir ce que c'est que l'évangélisation si je n'évangélise pas. Etc. Et donc, en fait, je suis appelé à faire. Il ne faut pas que je craigne de faire.
C'est ce que je disais la dernière fois, par ici. C'est en pratiquant l'amour que tu sais, que tu découvres l'amour.
Voilà.
Tout simplement. Si tu restes assis tout le temps, tu pries pour l'amour, tu pries pour donner l'amour pour les autres, tu pries pour que les gens s'aiment, ben, commence par les pratiquer. Après, peut-être que tu fallait prier pour ça, tu ne découvres pas vraiment.
Oui.
C'est quoi l'amour?
Et du point de vue pastoral, on peut dire que quantité de personnes sont bloquées, les perfectionnistes notamment, je ne vise personne de chez vous, hein, tous ceux chez qui tout est impeccable. Il n'y a rien qui bouge, c'est propre, toujours propre, et quand on rentre, il faut mettre des pantoufles, et surtout, dès qu'il y a un livre de travers, on le remet, hein, voilà. Et là, il y a un peu de peur, là. Hein, je ne vise personne. Hein. Et donc...
Hein,
tu dis ?
C'est un problème, non ?
Mais toi, tu ne vois pas les gens que je vois.
Non, mais je l'ai perçu quand même. Ça va, tu peux continuer.
Voilà, je veux dire qu'il ne faut pas se sentir, il ne faut pas se sentir jugé. Hein? Mais dans un sens, quand on agit, alors forcément on est en désordre.
Hein? Aussi le confort de la position assise et l'inconfort de la marche. Il faut se sortir du confort de
la... Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un peu un espèce d'a priori. Parce que quand on reste assis, on a vite mal aux fesses aussi.
Oui,
hein,
oui,
hein, voilà.
Un chat qui se lève toujours.
Oui. Ouais.
Très bien. Moi, je trouve ce qui éclaire aussi ça, c'est ta définition de la perfection, qui est liée au fait d'être complet, qui amène justement quelque chose de beaucoup plus rassurant sur la marche. Puisque ce qui nous empêche de marcher, c'est une peur. Et cette peur peut venir d'une image de la perfection qui est parfaite.
Oui. Une chose que je n'ai pas abordée, parce qu'en fait c'est plus l'étude de l'épître que l'approche pastorale de l'épître. Mais c'est bien, parce qu'après on en parle. Une chose que je n'ai pas vraiment abordée, c'est comment être satisfait. Hein, dans Tite 6, verset 10, je crois, nous dit que la piété avec le contentement est un grand gain. Le contentement. Alors, le contentement, ce n'est pas lié à la satisfaction. Le contentement, à mon avis, c'est plus au niveau des circonstances. Hein, je me contente. Hein, je trouve mon contentement dans. Mais l'approche est un peu pareille. Une fois que j'ai fait quelque chose, il faut que je dise, mais j'ai fait quelque chose. Et je suis content dans la circonstance, mais je suis satisfait dans ce que j'ai fait. Moi, avant que j'ai vraiment posé ça et compris ça, je ne disais pas trop « je suis satisfait ». Maintenant, je le dis. Hein, je dis « voilà, quelque chose est fait, il me semble que ce que j'ai fait, ben, ça, voilà, c'est la motivation, en tout cas, je ne suis pas repris dans ma motivation. Donc, ben, voilà, continuons. Hein » et la satisfaction, c'est un des éléments du bonheur. Quand tu as fait quelque chose, tu peux très bien dire « je suis un serviteur inutile », c'est ne pas s'en glorifier. Mais tu peux aussi dire « c'est bien, hein, c'est bien, c'est utile, c'est... » et avoir un peu un examen de ses motivations qui montre que ça marche.
Donc ça voudrait dire qu'on va dire que dans une définition commune, on pourrait dire que la satisfaction, c'est la résultante d'une action qu'on a faite. Alors que là, ce que tu dis, c'est que c'est plus un examen de ses motivations et non pas du résultat.
Alors, je vais. Oui. Je vais le reprendre. C'est-à-dire que la satisfaction, c'est la. La satisfaction, c'est. C'est pas quelque chose qui survient automatiquement. Il faut avoir un regard, en fait, pour réaliser que nous avons fait ce que Dieu nous demande. Si on risque bien de ne pas être satisfait si on fait ce que Dieu nous demande, mais si on ne voit pas une fois que c'est fait. Il faut trouver la satisfaction. On peut très bien être des éternels insatisfaits en étant constamment en train de courir, en fait, et de passer de la chose que Dieu me demande à la chose que Dieu me demande, et avec une espèce de perfectionnisme qui n'est pas forcément dans la peur, mais qui peut être dans l'appréciation de faire, mais on n'est jamais nourri par ce qu'on fait. Ça va? Ça, c'est une idée. Donc, autre chose que tu as dit, c'est que c'est absolument clair entre nous qu'on ne peut jamais juger du résultat. Mais par contre, comment savoir si j'ai bien fait? C'est justement que quand je marche, alors je cherche les choses qui sont en haut, et c'est dans la marche que l'Esprit de Dieu me dit oui, non, oui, non, oui, non. Et qu'en fait, le discernement de la volonté, je dirais que c'est un peu une somme de oui, une somme de non. Et c'est un vrai travail de conscience. Autrement dit, la satisfaction, elle découle d'un regard sur ce que j'ai fait, mais d'un regard sur la conviction devant Dieu qu'il fallait le faire. Après, sur ce que ça produit, voilà, ça produit.
C'est très différent de la définition qu'on pourrait imaginer, telle que... Enfin, je sais pas.
Voilà, j'ai construit une maison, je regarde ma maison, elle est finie, léchée, etc. Voilà, oui.
on a beaucoup plus d'occasions dans nos vies d'être dans des situations où on est insatisfait plutôt que satisfait. Si on laisse faire les choses.
Oui. Oui.
Avec avoir la grille des sentiments là, que tu nous as donné, on voit la liste des cas où on est insatisfait, c'est 26 heures sur 24.
Voilà. Et donc, si du point de vue pastoral, je dis, je fais ce que Dieu me demande, c'est-à-dire ce qui relève de ma responsabilité, à ce compte-là, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, ce qui n'empêche pas que j'ai des colères et des tristesses, et des peurs. Ça, on va y revenir. Dans l'absolu, je peux toujours être satisfait malgré les colères, les tristesses et les peurs. Pourquoi est-ce que je dis colère, tristesse et peur? C'est parce que au sentiment éprouvé par le Seigneur Jésus, j'ai souvent cité Marc 3, verset 5, avec colère et tristesse. Il faut ajouter, Marc, regardez, c'est 14, 11, un truc comme ça, où il est dit, mon âme est saisie d'effroi. Quelque chose comme ça, Jean-Paul ? Hein? Je crois qu'il est dit, mon âme est saisie d'effroi. Et donc, l'effroi, c'est une peur bleue. Hein? C'est une peur importante.
C'est 34.
34.
Hein? 14, 34.
Et...
Tristesse.
Non, c'est l'effroi hein, que je cherche.
Effroi, c'est 33. Donc.
Voilà.
Il commence à être saisie d'effroi et forte angoissée.
Voilà. Et donc... je pensais que j'avais pas trouvé de verset qui dise que Jésus avait eu peur. Et je disais c'était normal qu'il ait pas peur parce que il savait en fait. Mais là avec l'effroi, il me semble qu'il y a quand même.
Je citais aussi il n'y a pas longtemps les Torahs de Bilam ont fait peur avec son quoi.
Oui.
Voilà, la mort.
Oui.
Ce verset, quel psaume c'est là les Torahs de Bilam ont fait peur.
Oui. D'accord.
C'est manifestement par le Seigneur quoi. Mais c'est une situation, le Seigneur a le cœur de la mort et sa mort.
Alors, avec cette présentation, il me semble que on se rend bien compte que presque toutes les souffrances du souffrant converge vers la définition de la volonté de Dieu à son égard. Si c'est pas ce que Dieu faire ce que Dieu lui demande, si c'est pas avoir un travail de conscience, ça marche pas. Et toute la délicatesse de l'approche pastorale est de prendre du temps pour l'expliquer, de pas être trop dogmatique en fait. Mais d'arriver à quelque chose de très carré avec le ministère glorieux de la conscience. Autrement dit, il n'y a pas de plus grand trésor que de pouvoir discerner ce que Dieu me demande et de le faire. Si c'est comme ça, ben je m'ennuie jamais. Hein? Je suis satisfait, je suis utile, je suis plein de Dieu, je suis en communion, etc. Hein, ouais. Et ça doit donc être un cap très général. Mais peut-être que pour atteindre ce cap, il faut des petits caps, des petits préliminaires. Dans une des fiches sur Appel Espérance, j'ai appelé ça « gérer la crise ». On ne conseille pas les mêmes choses pendant la crise et après la crise. Hein? Le jour où j'ai, par exemple, où j'apprends que j'ai un cancer, je ne vais pas dire à la personne, tu sais, il faut que tu réfléchisses à Romains 12, versets 1 et 2. Hein? C'est déplacé, c'est décalé, un truc pareil. Mais alors, ça ne veut rien dire, parce que autant quelqu'un qui viendra Franco qui ne connaîtra pas la personne, qui ne saura pas qu'il a un cancer, et qui lui dira « La clé de la vie, c'est Romains 12, versets 1 et 2 », autant c'est lui qui va le toucher. Donc, vous voyez, comme tout est, en fait... Il faut du discernement, mais on ne peut pas non plus... On ne peut pas dire a priori c'est comme ça ou c'est comme ça. Jamais.
D'où l'importance d'avoir un cap, des grandes lignes générales.
Oui.
C'est fondamental.
Voilà.
Même parfois, tu sais, j'aurais envie que d'ici la fin, je ne sais pas de quoi j'aurais envie, mais que tu redises, mais simplement redire les quelques grandes lignes générales, oui, qu'on doit retenir.
Oui, mais ça peut se faire.
Juste les dire, parce qu'après les explications,
oui.
On les retrouve. Mais tu nous aides à me dire, ça nous le faire.
Non, mais c'est bien possible. En tout cas, dans Colossiens, moi, avec cette... j'aime bien le visuel, en fait, ça m'aide à retenir. Hein. Mais avec les 10 commandements, je marche, je veille, je ne me laisse pas juger, et j'accorde du prix. Voilà. Et comme je sais que c'est symétrique, le cinquième, c'est discerner la volonté, et après, c'est symétrique. Hein. Donc, je marche, voilà, c'est à l'envers les autres. Je marche, je veille, je ne me laisse pas juger, j'accorde du prix. Donc, je sais que ça commence par « je marche », et je sais qu'il y a « veiller, juger et apprécier ». Et là, il y a dans l'action, il y a une autoroute quand même. Hein. Il y a, c'est vrai que, vous l'avez remarqué, je suis plutôt ferme dans mes convictions. Je ne me laisse pas trop... justement...
Si tu fais tout pour nous déstabiliser, toi, on a du mal à le faire. Hein.
Et voilà, moi je cherche... Voilà, je cherche pas du tout à vous déstabiliser. Non, mais je suis pas... Mon but, c'est plutôt de vous apprendre à être dans la liberté. Moi, j'aurais envie de vous dire, mais ce que vous avez entendu, oubliez-le. Ne l'apprenez pas. Moi, il y a une personne qui vient me voir le vendredi matin, elle note tout ce que je dis. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le chemin pour lui dire, mais arrêtez d'écrire. Ce qu'il faut, c'est vivre, en fait.
C'est ça, oui.
Mais elle nourrit sa peur en écrivant.
Vous n'en savez rien, elle a peut-être ce besoin-là, ça la rassure, tout ce que
oui,
tu
ça,
veux. Vous n'en savez rien, ouais, c'est là, c'est là.
Non, mais je sais
que... Mais toi non plus, tu n'en sais rien.
Est-ce que j'ai dit que je savais?
Oui, mais tu nous dis qu'on n'en sait rien.
Nous, on n'en savons rien, alors.
C'est-à-dire qu'en fait, en notant tout, tu perds en fait l'énergie que tu consacrerais à retentir.
Oui.
Cette approche, moi cette approche par exemple avec Colossiens, tu apportes la branche qui nous montre des choses dans l'accompagnement, comment ça fonctionne, et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est ça, on revient sur la même chose qu'on a dit ce matin, c'est accepter quelque chose qu'on a l'habitude de voir différemment. C'est un gros travail, je crois, pour moi. Le plus gros travail qu'il peut avoir, c'est l'œuvre miraculeuse, c'est la repentance, parce que c'est un changement de mentalité. Et ça, c'est le plus gros. C'est que tu as construit là, et arrive à un moment donné, tu dis, il faut changer, c'est compliqué. Il faut que Dieu t'aide pour le changement. Tu vois? Et quand on voit cette formation, combien mon approche même de la Bible a changé, je dis, mais c'est incroyable, si mon approche de la Bible a changé, c'est que je changeais les mentalités. Je me suis rendu compte que sur certaines choses, j'étais peut-être bien, mais conditionné. Là, je trouve plus la liberté. Et cette liberté fait peur, parce que du moment où tu rentres dans la liberté, tu vas dans les vies tu vois que quand tu as un cadre conditionné, tu n'es pas dans les vies. Tu es déjà conditionné, tu es chiant, tu as des convictions arrêtées, tout le monde parle pareil, tout le monde dit amène au même moment. Mais comme tu apportes un truc comme ça, c'est vrai que tu ouvres un chemin pour que les gens puissent nager et aller chercher eux-mêmes quelque chose dedans. Et que dans l'église, souvent, on n'ouvre pas le chemin, on est conditionné. De là, tu arrêtes là. C'est ce qui fait toute la différence. Et ça fait peur. Ça fait peur pour les gens qui m'assoient. Parce que où est-ce qu'on va y aller avec ça? Amen.
Amen.
Et derrière, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu, en fait? Quelque part.
Oui. Il a parlé de mon Dieu, t'as vu?
Il a dit Amen.
Les autres, ils ont tourné la page. Les autres, ils ont justement.
Elle reproche ta question.
Oui, qu'est-ce que tu disais?
Ouais, parce que derrière ça, quand même, c'est vrai que quand même, on a été libérés, une fois pour toutes, ça, on le sait, on l'a compris. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas véritablement réalisé. Puisque sur ces chemins de risque, on n'y va pas. C'est-à-dire que quelque part, on pense peut-être en arrière-plan que Dieu n'est pas complètement nous.
Tu parles pour toi.
Tu. Enfin, je pense.
Tu dis bon.
Oui, ben, si tu veux, je dis nous. Parce que je parle pour moi. Mais je me dis pourquoi est-ce que je ne vais pas sur ce chemin de marche, c'est-à-dire de pied dans la boue, davantage. C'est parce que derrière, je ne réalise pas complètement la souveraineté de Dieu, que Dieu m'aime. Et qui va m'accompagner, et qui va m'aider, etc. J'ai certainement une vision un peu du Dieu qui est là, qui va pointer du doigt ce qui ne va pas, qui va peut-être une calotte de passage, avec une mauvaise vision de la correction. Je t'écoute d'art.
Non, mais je ne sais plus si je peux parler. Je pense que d'une part, je le rejoins, hein, donc on est deux, il peut vous dire nous. Je pense d'une part, c'est un manque d'assurance de la personne, et donc un manque de confiance en Dieu. On se dit, bah, Dieu, il nous a sauvés, c'est vrai, mais est-ce que.
Il y a un petit mais.
Voilà, il y a quelque chose que n'aime pas le gars, les mais. Oh, bah, combien de fois tu dis, ne dis pas mais.
Mais même celui de
ça. Il n'était pas là ce matin, on ne voyait pas dans ce calendrier qui était là.
Oui, mais à ton avis, pourquoi je dis ça?
Eh bien, c'est que tu ne veux pas qu'on passe des.
Non, mais parce qu'on
prend des chemins de.
Non, c'est parce que, en fait, la contradiction n'est pas cohérente.
Non, mais je ne critique pas sur la technique.
Mais à ce compte-là, il ne faut pas dire que j'aime pas le mais. Le mais, il est utile.
Oui, mais
bon, il est utile quand on veut apporter. Voilà.
Tu le. Souvent.
Oui.
Donc je crois que c'est ça. Mm-hmm. Ça peut durer plus de
peut-être aussi, alors je me mets avec vous. Hein.
Oh, il va se retrouver tout seul.
C'est l'équipe.
peut-être aussi que. Alors, on parle du fait que Dieu nous appelle à ça. C'est clair. Est-ce que. Aujourd'hui pour moi, peut-être. Est-ce qu'on sait suffisamment faire confiance au Saint-Esprit qui va nous donner la parole à propos, le discernement, je ne sais pas comment, pour parler à la personne. Et je vois, là, quand on a fait cette étude de cas, enfin, c'était même pas le Saint-Esprit, c'était tellement basique quand tu as posé la question, la femme qui est venue te voir pour te demander. C'était même pas ça. Mais il me semble que. Alors, est-ce qu'on manque d'enseignement? Est-ce que je ne sais pas quoi? Mais en tout cas, il n'y a qu'à le prendre. Hein, je suis convaincue que si on est appelé, si on le fait devant Dieu dans une motivation juste et vraie, le Saint-Esprit va vraiment nous être en aide.
Mais on ne le fait pas.
Ah ben non, pourquoi tu dis mais on ne le fait pas? Pourquoi tu dis ça?
D'une façon générale, moi je vois dans ma vie. Je veux dire, je ne suis pas.
Mais tu
le fais, mais timidement, si tu veux. Je le fais.
Oui, mais quand tu te dis.
Non, mais attends, Hélène, tu lui mets une gifle et c'est bon.
Oui, moi je
pense. Il a très envie.
Non. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis ça, d'abord, c'est pas vrai.
Oui, c'est.
C'est-à-dire que c'est pas, ça ne te représente pas. Sinon, tu ne serais pas là dans cette attitude-là. Voilà. Et ce n'est pas inutile ce que tu dis, mais c'est. Voilà, c'est pour ça que tu l'embrouilles un peu en disant ça.
Non, pour non, ça que je dis, tu lui mets. J'ai une réponse. Hein.
Oui, voilà, mais c'est difficile de t'embrouiller. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est pas exploitable, quoi. On le fait pas.
Parce que... qu'il faut tout reprendre à zéro, alors.
Mais attends, c'est quand même quelqu'un de pieux, d'impliqué, de conséquent et qui a des projets avec le Seigneur. Voilà, alors donc il ne dit pas on le fait pas, sinon on va être une fessée, pas une gifle.
Je sens que je dis ça pour attendre de nous quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi.
Non, mais c'est lui qui sort.
Non, là c'est un peu de la provocation, là. Ouais, il y a une petite.
Pour moi ça va être un glaçon bête.
Tu vois, petit fouet quand
même. Bon, qu'est-ce que dit l'aile gauche alors? Parce que là, quand même, il y a quand même une bonne partie de l'aile gauche, de l'aile droite qui s'est déplacée à la gauche.
Il y en a deux, ils sont toujours en loi.
On vous a...
deux villes lois.
C'est tout intérieur.
On vous... On vous a piqué la place
sur les choses qui sont en haut. Chut. Je peux revenir un peu sur les choses qui sont en haut, parce que nous, on a vu ça vraiment très haut. On doit faire placer un peu plus des choses de valeur, des choses... Là, nous, pour nous, c'est le ciel, peu nous assis comme ça. Mais le verset aussi, là où Christ est assis à droite de Dieu, voilà, ben c'est à Christ. Quoi. Les choses bonnes, c'est Christ. Les choses excellentes, c'est Christ. Bon, voilà, après ce que ça revêt, à rechercher les choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Tu peux repréciser ce que.
Oui. Donc, où est-ce qu'il est assis, Christ, en ce moment? Je crois que les Mormons pensent qu'il est sur une autre planète. Et les Mormons disent, mais c'est pas le sujet, hein, que chaque saint céleste, parce que vous savez que chez les Mormons, il y a les célestes, les télestes et les terrestres, et les damnés. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Mais que chaque saint qui ne sera pas damné sera Dieu sur une terre. Voilà. Je ferme la parenthèse des Mormons. Où est le ciel? Pour moi, le ciel, c'est les lieux invisibles. Il est là, le ciel. Il est là, Christ, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le lieu invisible et les esprits, en fait, sont... Je ne crois pas que quelque chose puisse me permettre de dire quelle taille ils ont dans le lieu invisible. Mais il y a un lieu invisible. Hein, et Satan vient se présenter devant Dieu. Donc il y a un lieu invisible, mais qui est là, en fait. Et... donc chercher les choses qui sont en haut, ça veut dire, comme dit Colossiens 2:10, soyez remplis. Non, vous êtes remplis. Mais comme dit Éphésiens 5 verset 18, soyez remplis de l'esprit. C'est-à-dire ça veut dire de la même manière que l'air vient remplir notre cage thoracique, l'Esprit de Dieu vient remplir l'ensemble de notre être, d'une manière ou d'une autre. Oui ?
Je vais rechercher les choses d'en haut. Plus simple pour moi, c'est que la vie chrétienne commence par une relation avec Dieu. Chaque fois que je vais projeter dans le monde, je vais chercher ce que Dieu a planifié pour moi, parce qu'il y a un plan pour moi sur cette terre. Mais Christ, si la Bible me dit Christ est d'en haut, pour que je puisse marcher sur terre en puissant la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu pour moi, bah forcément je dois me mettre en relation avec lui. Mais si je cherche sur la terre, il n'y est pas sur la terre, il est d'en haut. Bah le fait d'être en relation avec lui, je cherche les choses d'en haut avec lui pour pouvoir l'appliquer en bas.
Si tu dis ça à quelqu'un, il va te dire mais moi en haut, je ne sais pas où c'est.
Ah oui, mais bon,
c'est pour ça que j'insiste sur la... C'est pour ça que c'est écrit en haut, hein, on est d'accord. Mais j'insiste sur la proximité. Les lieux invisibles, c'est les lieux invisibles. Hein, voilà. Et donc...
Ça, c'est un mystère encore, qui reste toujours un peu mystère. On ne peut pas bien définir. On peut l'expliquer comme ça, à peu près. Il y a troisième ciel pour l'apôtre Paul, il est monté jusqu'au troisième ciel. Dieu peut révéler des choses. Dans ce moment, on ne sait pas ce qu'il a vu. Il n'a pas trop envie de parler. Hein, ce n'est pas vraiment défini. Mais ça reste toujours... Ça, ce sont des choses pour moi qui restent toujours mystère.
Voilà. On ne peut pas les expliquer, mais on peut savoir qu'elles existent. Voilà. Donc, en fait, chercher les choses qui sont en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu, ça veut dire, finalement, être dans sa relation. Par exemple, j'aime bien, je crois que c'est le verset 3 du psaume 54, hein, qui dit « Ils n'ont pas mis Dieu devant eux », un truc comme ça. C'est ça un peu pour moi. C'est ça ? Hein ? C'est un peu comme « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Autrement dit, dans ce que je fais, il faut que, justement, que le monde invisible, que Dieu et le monde invisible soient au cœur du projet, soient dans le projet. Cherchez les choses qui sont en haut. Je pense qu'il y aurait des choses à préciser, mais ça revient à parler du témoignage glorieux de la conscience.
Je pense à un témoignage. Hein? Oui. Je pense à la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus va dire, tout ce qui sort quelque part de ce puits ne peut pas te purifier. Et quand il dit ça, moi je pense à la terre, produit de la terre, qui ne peut pas te purifier. Mais il dit, c'est que je te donne, moi, j'arriverai jusqu'à la vie éternelle. Quelque part, il fait référence à l'esprit. Et on a l'impression qu'il est en train de dire à cette femme, ben, écoute, tu vois maintenant, tout ce qu'il y a en bas là, il ne peut pas t'emmener dans la purification courte. Ce qui vient d'en haut peut te purifier. J'entends ça là-dedans. J'entends que, il y a une source qui vient de la terre. La terre, bon, elle est maudite quelque part. Et puis, tout ce sens des spiritualités qu'on trouve sur la terre ne peut rien faire pour toi. Par contre, l'eau que moi, je t'ai donnée.
Est-ce qu'on peut se le rapprocher de la liste qui est donnée dans Philippiens 4, toutes les choses qui sont vraies, pures, toutes les choses sont vénérables, justes, pures, aimables, de bonne renommée.
Ouais, ce qui est bon, aux yeux de Dieu.
Je ferai un petit peu
la liste de ces choses-là.
Je ferai ici un peu l'inverse, c'est-à-dire reprendre le verset 3. Votre vie est cachée avec le Christ. Autrement dit, ce principe justement de discernement, de compréhension, il est caché avec le Christ. Votre vie est cachée avec le Christ. Autrement dit, on va élever nos pensées en venant à la lumière, par exemple. Hein, comme dans Jean 3, 17, hein, les hommes n'ont pas voulu venir à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Autrement dit, je viens à la lumière, mais dans la lumière, en fait, ce qui est la puissance en fait, que je vais trouver, la direction pour la marche, c'est un peu caché. Je vais le discerner, mais je ne vais pas forcément tout comprendre. Hein, la présence de l'esprit en moi, c'est quand même quelque chose de mystérieux, c'est caché. C'est un peu ineffable, comme il disait tout à l'heure. Hein, chercher les choses qui sont en haut, penser les choses qui sont en haut, oui, tu as raison de penser à Philippiens 4, mais de l'autre côté, il y a quelque chose de mystérieux en moi qui fait quand même que, ne sachant pas ce que je dois faire, je le fais et ça marche. Mmh. Voilà, enfin, c'est un peu comme ça que je l'entends, ça, et ça n'enlève pas du tout que...
En rapport avec le lien qu'on a avec Christ, en tout cas, et que ces choses qui ne sont peut-être pas vraiment définies là, nous sont données. Tout ce qui découle, tout ce qui représente notre vie, quoi. Notre vie, oui, la puissance de l'esprit que Christ nous donne. Et c'est en lui la source que nous devons les devis, que nous devons alors, les recevoir. Mais...
À mon sens, ça reste très théorique. C'est valable, parce que c'est biblique, si tu veux. Mais ça reste très théorique, et je pense que, surtout du point de vue pastoral, on est à l'heure très pratique. Autrement dit, je dirais que notre vie est cachée avec le Christ, je ne le dirais pas comme ça, quelqu'un qui est en souffrance. Je dis plutôt, écoute, quand tu te mets à la lumière, tu dois discerner, tu discernes en fait, ce que tu es appelé à faire. Ça revient à dire que notre vie est cachée avec le Christ. Mais c'est beaucoup plus pratique, parce que, en fait, ça veut dire, regarde, là, les volets sont ouverts, et tu vois qu'il y a des panneaux avec des enluminures. Tu le vois. Donc, de la même manière, si tu te places dans la lumière de Dieu, c'est évident que tu vas voir ce qu'il te demande de faire. Mais moi, je ne peux pas te dire ce qu'il te demande de faire.
Et en plus, quand tu dis, si tu te places dans la lumière, tu le mets devant une responsabilité, une action qu'il doit faire lui.
Oui.
Et ça, je pense que c'est une chose qui est bonne.
Importante, oui.
C'est important, ça.
De la même manière que ce qu'il dit, hein. Mais oui. Être avec Christ, c'est... je ne sais pas si je vous ai raconté, j'ai des étudiants en maîtrise ici, et je leur ai donné un devoir sur le bonheur. Il y en a un qui est très gentil d'ailleurs, hein, très sympathique. J'ai dit, faites une description intuitive du bonheur, mais qui puisse être lue par un souffrant et comprise. Et il m'a fait un truc de presque 2 pages, qui m'a dit, et il me dit, le bonheur c'est d'être avec Christ, de vivre par Christ, de vivre pour Christ, de vivre de Christ, etc. J'ai dit, mais je suis en colère quand je vois un truc pareil.
Hein?
Voilà. Et ce monsieur est pasteur depuis 14 ans. Voilà. Donc,
développé plutôt quoi, toi,
ben,
accessible à un souffrant.
Ben, description intuitive du bonheur. Je recherche avec mon prochain être en paix. À l'aimer. C'est toi qui me poses cette question, la purée de tes os. Toi qui, au contrôle hier, tu as foiré cette question. Espèce de...
Plein de nouilles.
Marmite de
nouilles. Pour lui, son bonheur, il les trouve, au fait, qu'en Christ. Mais les trouve pas avec les uns et les autres.
Et au... voilà.
Il est en train de faire le mec, et il trouve un bonheur qui est un bonheur égoïste.
Mais c'est sens... attends, parce que c'est enregistré. C'est quelqu'un de génial.
Ah oui, mais
c'est quelqu'un de très très qui est pas du tout dans sa copie comme il est dans la réalité. Ouais. De très présent, de très altruiste, de très sensible, de très.
Ouais, voilà.
Mais on lui a appris à dogmatiser les choses et du coup il est coincé. Quoi.
Il est coincé par le terme de devoir, de la relation qu'il y a peut-être aussi dans l'enseignement.
Voilà, oui.
Et il y a beaucoup, hein. Moi j'ai des amis comme ça, ils trouvent le bonheur que dans la relation avec Dieu, ils ne trouvent pas ça.
Mais moi je l'étais là, avant de venir. Tu vois, la conception telle qu'elle nous est enseignée dans le rassemblement, elle est comme ça, c'est cette définition que ce pasteur a donnée.